Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Philippe Aguillon, aujourd'hui professeur au Collège de France, co-auteur du pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Il publie La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie, chez Buch et Chastel. Et puis Sylvain Aurébile, président d'Orientis. Vous avez fait réagir avec votre idée sur l'assurance vie, Philippe Aguillon, vous imaginez. Parce que tout le monde considère qu'il y a un engagement sur l'assurance vie. On vous a promis quelque chose, on ne peut pas vous le casser
en cours de route. On ne peut pas être rétroactif, ça c'est vrai.
Bon, mais ce serait d'ailleurs.
C'est sur les nouveaux contrats.
C'est une nouvelle idée sur les nouveaux contrats.
Absolument. Les politiques sont de très mauvais économistes, m'écrit cet auditeur. On verra avec vous tout à l'heure ça.
Inversement.
Et puis il y a cet auditeur que je sais très fan de Jean-Marc Daniel qui considère que le problème, ce n'est pas le droit de grève, mais les monopoles de ces entreprises. Voilà. Ce sont.
C'est vrai.
Il met les conséquences, ce sont les grèves, mais les causes, ce sont les monopoles, d'où l'idée d'aller les privatiser. Oui, effectivement, le vrai sujet probablement qui nous différencie des autres pays, Olivier Babeau, c'est la dépense sociale. C'est là la vraie facture. Quand on regarde les quelques 8 points de PIB qui nous séparent des pays qui nous ressemblent, il y en a 4, c'est la retraite. Il y en a un, c'est la famille, un, c'est la défense, un, c'est les affaires économiques type CICE, et puis il m'en manque un, je sais plus ce que c'est. Et donc l'idée, la bonne vieille idée de la TVA sociale, Éric Ciotti.
Oui, alors on se souvient que cette idée de TVA sociale n'avait pas profité à l'époque à Jean-Louis Borloo, qui l'avait sorti entre deux tours, et ça avait été terrible.
Ah oui, c'est vrai ça. C'était Fabius qui avait sorti, ça avait probablement été
60 sièges de députés qui avaient été perdus par la droite, et donc la droite traumatisée. Donc je salue le courage d'Éric Ciotti sur ce coup-là. Alors, moi, j'ai envie de partir du pouvoir d'achat, parce que finalement, c'est ça le vrai sujet. Le pouvoir d'achat, on sait, sur les salaires super bruts, c'est-à-dire le coût employeur, il est plutôt assez bon, en fait. En France, les gens sont bien payés. Le problème, c'est ce qui reste à la fin sur le net-net, c'est-à-dire le net après les charges sociales, et puis l'impôt sur le revenu, tout ce qu'on vous a pris à la fin. C'est-à-dire le coin fiscalo-social, comme on l'appelle, ou socialo-fiscal, ça dépend comment on veut l'appeler. Et ben, pour le réduire. Notre problème, c'est comme on le sait, c'est que notre protection sociale qui profite à tout le monde, elle pèse sur le travail. Il y a absolument peu de gens qui travaillent. Et donc, il faut essayer de trouver l'impôt qui a la plus grande assiette. La meilleure assiette, c'est la consommation, évidemment. On n'a pas trouvé mieux que la TVA en termes de rendement, point, par rapport à ce que ça rapporte. Et donc, la TVA sociale, c'est-à-dire l'idée que, je crois qu'à l'époque, le projet, c'était d'augmenter de 5 points. Donc, imaginez, vous passez de 20, c'était un peu moins à l'époque, mais 20 à 25, bon. Et bien, tout cet argent, ça vous permet de considérablement économiser sur les charges du travail. Ça veut dire que en fait en salaire net, tout d'un coup vous avez une explosion. Ça veut dire que les gens qui vont consommer vont évidemment payer un petit peu plus, mais le travail devient plus rémunérateur. Je trouve que c'est une très bonne piste pour arriver, alors ce qui ne fait pas l'économie probablement d'une remise à plat de notre système de protection sociale qui devient de plus en plus difficile à soutenir dans un moment où on est moins riche d'une
façon ou d'une autre. C'est le problème, parce qu'on ne fait que transférer une facture là.
C'est un transfert de facture, c'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir à la facture.
Voilà.
Mais ce transfert de facture, il paraît très intelligent, et c'est aussi une, je crois qu'on l'a appelé d'ailleurs anti-délocalisation, parce que l'idée aussi c'est que ça va être plus facile d'embaucher des gens sur place, et on fait payer les importations, on est des grands importateurs, nous on le sait en France, à travers la consommation, et donc c'est une façon de faire payer
baisser le coût des exports, monter le coût des imports,
voilà,
le côté compétitivité. Bon, c'est l'aspect sur lequel je trouve qu'il y a le plus de débat. Celui qui paye à la fin, c'est le consommateur quand même.
Oui, mais il y a la TVA sociale, il y a la CSG également. On peut le faire par la CSG.
Soit on fait par les prix, soit on fait par les revenus.
Nous, on avait recommandé, avec Eli Cohen et Gilles Berset, on avait nous recommandé de le faire plus par la CSG. C'était le débat au moment du CICE d'ailleurs.
Du coup, ça touche les revenus du capital.
Donc on peut le faire par la CSG, tout à fait. Et c'est en fait une dévaluation réelle, puisque vous savez, maintenant on a l'euro, on peut plus faire des dévaluations. Et en période, surtout comme on a un grand déficit de la balance commerciale, on peut vouloir se donner un peu d'oxygène en faisant une dévaluation réelle. Et moi, je trouve que l'outil de la CSG est un bon outil. Et donc, Et donc, ça peut être une manière de faire de la dévaluation réelle. Et ça nous donne un peu d'oxygène pour après devenir plus compétitif par l'innovation. Parce que la dévaluation, c'est toujours du court terme. On devient un peu compétitif à court terme. On fait une dévaluation coût. Hein, et après, on innove pour faire une dévaluation hors coût. Quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Vous ne pensez pas qu'on n'a pas... l'effet dévaluation, il n'est pas plus fort avec la TVA qu'avec la CSG?
Je crois pas.
Ça a été voté en mars 2012. Hein. On a passé la TVA de 19,6 à 21,2. Ouais. Ça faisait 13 milliards d'euros de moins de cotises patronales. Mais
François Hollande, vrai qu'en part du PIB, notre TVA est plus faible qu'ailleurs.
Oui, absolument.
On a beaucoup de niches. Donc oui, on sait qu'on peut jouer là-dessus, effectivement. On peut le faire par la CSG également.
On racontait hier les aberrations des taux de TVA français où vous avez un taux de TVA pour les pots de fleurs différent du taux de TVA pour les fleurs. Vous avez un taux de TVA pour la plaquette de chocolat qui n'est pas la même si le chocolat est en petits carrés séparés.
Au restaurant, ça dépend aussi selon ce que vous consommez.
Oui.
Il y a des taux qui sont différents.
Oui, 10%. Mais il y a de quoi écrire une petite nouvelle.
Il faut
absurde.
Voir ça comme un outil d'évaluation. Ouais. Hein,
Moi, j'ai Jacques Delplat qui me pose la question. Là, il se demande si tout ça est parfaitement conforme à la Constitution. L'idée d'aller utiliser la TVA pour financer des dépenses sociales. Autant la CSG a été pensée pour le social.
Moi, je suis très CSG.
On ne finance pas des dépenses contributives, en l'occurrence. C'est des dépenses qui vont.
Oui, alors si vous considérez que c'est de la solidarité nationale, c'est un sacré débat. Oui. J'ai eu beaucoup de gens qui considèrent que c'est une mesure de gauche, la TVA sociale. Et que c'est bizarre qu'Éric Ciotti la porte. Je sais pas.
Elle est donc consensuelle.
Bon, elle a été votée sous Nicolas Sarkozy et elle a été, au contraire, mise au rebut par François Hollande, devenu président, avant son entrée en vigueur prévue à l'octobre 2012.
La grande critique, c'est que la TVA est dénoncée comme l'impôt le plus injuste parce qu'il va toucher tout le monde de la même façon. Et encore plus si vous êtes pauvre, puisque théoriquement, votre taux marginal de propension à consommer est supérieur si vous êtes.
C'est la vérité, objectivement, Olivier Babot.
C'est pas faux, mais d'autre côté, quand
c'est
vous
un bon
économisez
impôt,
beaucoup,
la vérité.
L'épargne n'est que de la consommation différée. Donc vous finissez toujours à la fin par payer. Donc on en revient à la flat tax, l'idée de Philippe. On paye tous à peu près le même taux. Alors évidemment, il y a des gens qui diront il faut que ça soit progressif.
Alors moi j'ai une super idée à l'heure des nouvelles technos, j'ai une idée géniale à vous soumettre Olivier. Vous savez, on a tous une carte bancaire, on peut rajouter une petite ligne numérique qui va faire qu'en fonction de vos revenus, vous payez pas le même prix au magasin. Hein. Vous imaginez le truc?
On pourrait.
Ah bah, techniquement on pourrait. Alors je pense que là,
votre bilan carbone.
Non mais là ça passerait pas non plus le. Ouais. vous voulez ça? Non.
On va parler de l'IA.
On transfère une facture qui ne bouge pas. Et là, il y a un moment, il faut aussi... Parce que la solution, c'est d'augmenter le taux d'emploi.
Mais mieux répartir le fardeau, c'est déjà quelque chose de bien. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter le taux d'emploi en même temps. On peut faire les deux.
Ouais. Moi, je suis plus CSG. Basculons un peu plutôt sur les revenus. Il y a le côté intergénérationnel. On bascule sur tous les revenus, y compris les retraités.
Oui, compris.
Ce débat,
on pense que la CSG a été créée à 1% par Rocard sur la main, qui indiquait qu'on n'augmenterait pas.
Et on est à 7.
Souvenons-nous.
Moi, je suis assez CSG.
Souvenons-nous.
On est à 7,5 là.
Comme quoi, quand on invente un impôt.
Hein, mais ce sont quand même les structures d'impôts les plus innovantes du monde. Elles sont des idées françaises.
Oui. Maurice Lauret, la TVA.
Voilà. Et ça, tout le monde l'a copié. Personne ne s'est amusé à reculer la retraite de 5 ans, ni à mettre le même jour, la même durée du travail pour tout le monde. Mais par contre, la structure de la TVA, ça fonctionne dans le monde entier. IA. Philippe Aguillon m'écrit parmi les idées du jour, tiens, on va parler de l'IA et il faudrait quand même réussir à savoir ce que ça peut produire en termes d'emploi et en termes de croissance. Et ça intéresse les chefs d'entreprise de savoir quelles peuvent être les conséquences de l'intelligence artificielle. Vous vous posez la question, Philippe.
Oui, on va sortir un rapport sur l'IA, dans une commission IA dans le 12 mars. On remet un rapport au président de la République.
Vous dites « on », c'est vous et...
Et ma commission, ma coprésidente Anne Bouvreau, et on a une commission IA. D'accord. Et on remet un rapport au président de la République le 12 mars.
Voilà. Ah oui, ça, on sera sur le coup.
Donc, mais c'est vrai que à l'occasion, donc on a fait un peu des travaux de recherche avec des collègues, notamment Simon Bunel, qui travaille beaucoup, et Xavier Jaravel aussi travaille avec nous. Et on a regardé un peu les effets sur la croissance et l'emploi. Et en fait, nous, ce qu'on trouve, c'est que, en tout cas, les entreprises qui adoptent l'IA, par rapport à des entreprises semblables qui l'adoptent pas ou qui l'adoptent plus tard, sont nettes créatrices d'emplois.
Comme pour les robots, quoi.
Donc, il y avait cette crainte, disons, de l'IA, générant du chômage de masse. Pour le moment, c'est pas dans les données. Alors, évidemment, c'est des données à très court terme. On voit l'IA, c'est sur 3 ans. Tu pourrais dire peut-être à plus long terme, tu as d'autres effets. C'est pas uniforme sur toutes les professions, mais globalement, les entreprises qui adoptent l'IA, et c'est parce que ça cause un effet de productivité, elles deviennent plus productives. Et donc, comme elles deviennent plus productives, c'est comme pour les robots, eh bien, elles peuvent baisser leur prix, ou en tout cas, améliorer le rapport qualité-prix, et du coup, vendre davantage. davantage et du coup embaucher davantage. Et cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution de la machine à l'homme. Quoi. Et donc ça, c'est une... Alors, on le trouvait déjà, moi, on l'avait déjà trouvé sur l'effet du robot ou de l'automatisation, mais apparemment, on le trouve pour le moment sur l'IA. Alors, c'est pas uniforme sur tous les emplois. Hein. Il y a des emplois qui sont davantage touchés que d'autres par l'IA. Mais, et donc, ça veut dire qu'il faudra éduquer, il faudra avoir de la formation plus que jamais.
Il faudra avoir
une bonne organisation du marché du travail. Mais, en tout cas, la crainte, si vous voulez, d'une IA qui nous rend la crainte existentielle, ce qu'on appelle le risque existentiel lié à l'IA, ou que l'IA nous rend complètement redondant et crée du chômage de masse, de la même façon qu'on a eu cette crainte à propos des grandes innovations quant à la machine à vapeur, l'électricité ou les technologies d'information, à chaque fois on a prédit la catastrophe et le chômage de masse, et je pense à nouveau rien n'indique du tout qu'on va aller dans cette direction. Donc c'est l'idée de dédiaboliser l'IA, vous voyez, de dire voilà, ça n'a pas les conséquences.
Vous partez dans l'idée que ce que nous enseigne l'histoire sur les effets de l'innovation sur l'activité, l'emploi, la croissance, ça va se répéter avec l'intelligence
artificielle. En tout cas, pour le moment, rien n'indique que l'IA soit réductrice d'emploi globalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir des formations, qu'il ne va pas falloir un marché du travail qui permet d'adapter les métiers, de changer, de passer d'une occupation à une autre. Ça, il faudra évidemment le faire. Mais globalement, pour le moment, on ne voit pas du tout que l'IA réduise l'emploi.
Parce que là où je trouve qu'il y a une particularité un peu nouvelle avec cette révolution, c'est que quand vous aviez une innovation technologique, le métier à tisser, mais les tisserands au chômage, ce sont les tisserands. Quand vous avez tout d'un coup une intelligence au silicium qui vous raye une intelligence carbonée sur la planète entière en un temps record, on est sur un effet de masse, vous voyez ce que je veux dire, Philippe, qui dépasse ce que l'histoire nous a enseigné.
Mais en même temps, l'IA...
Quand les chandelles disparaissent pour l'électricité, on faisait de la chandelle.
Oui, mais l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle vous aide à faire des tâches, à gagner du temps sur les tâches rébarbatives et à devenir plus créatif. Voilà. Et donc ça, c'est un des grands avantages. Et alors, l'autre chose de l'IA, c'est que l'IA a un potentiel de croissance très important, parce que l'IA automatise en partie la production de biens et services, mais également la production d'idées. Elle vous aide à être beaucoup plus efficace dans la production d'idées. Donc elle a ce potentiel. Elle améliore la technologie de production des idées, ce qui devrait normalement être un accélérateur de croissance. Mais d'un autre côté, il y a l'envers de la médaille, c'est qu'on sait qu'avec la révolution des technologies de l'information, ça a donné lieu aux GAFAM. Au début, les GAFAM, elles ont dopé la croissance, mais après, elles sont devenues tellement tentaculaires qu'elles ont découragé l'entrée de nouvelles firmes. Et là, ce qui se passe avec l'IA, c'est que c'est d'emblée les GAFAM qui sont là. C'est qu'elles sont immédiatement là. C'est eux les grands acteurs, et le danger, c'est qu'ils plombent la croissance d'emblée. Donc, si vous voulez, l'IA a un potentiel de croissance, mais il va falloir plus que jamais travailler sur la marge de la concurrence. Plus que jamais, il faudra réformer les politiques de concurrence pour justement que les GAFAM et les gros acteurs de l'IA ne nient pas l'innovation des autres. Voilà, et tout est là-dedans. Donc c'est toujours la même idée. Il y a un potentiel de croissance et un potentiel de création d'emplois. Il faut adapter nos institutions, voyez, que ce soit nos politiques de concurrence, nos politiques de marché du travail, notre politique d'éducation et de formation, pour que l'IA puisse donner le maximum en termes d'emploi et de croissance.
Voyez, on a beaucoup dit que les Européens, avec l'IA Act, s'amusaient une fois de plus à réglementer là où les Américains innovent. Bon, c'est oui, effectivement, nous libérer de tâches répétitives. J'ai quand même lu des chiffres sur le métier de traducteur. C'est quand même un tsunami.
Duolingo a viré 10 à 20% de ses traducteurs.
Voilà. Et alors, visiblement, l'IA n'est pas très très douée pour traduire le japonais, enfin toutes les langues asiatiques. Mm-hmm. Donc si on est traducteur franco-japonais, on est encore un peu tranquille. Mais franco-anglais...
Nicolas,
voilà. Là, ce n'est pas des gens dont les tâches répétitives sont supprimées.
Non, mais Nicolas, si vous regardez métier par métier, si vous allez commencer à pleurer pour les traducteurs ou les doubleurs de cinéma, on ne va pas s'en sortir.
Je suis d'accord.
Globalement, l'intelligence artificielle est une chance pour les entreprises, une opportunité, au même titre que l'a été le téléphone portable ou l'ordinateur portable. Et il faut que chaque entreprise s'en empare à son niveau. Alors, effectivement, il y a des métiers qui vont souffrir, mais globalement, la croissance mondiale va s'en sentir bien. Et moi, j'ai mis toutes mes équipes, à chaque salarié, je lui ai demandé de réfléchir à ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter. Elle peut apporter évidemment à mes équipes de graphistes qui aujourd'hui utilisent Photoshop et essayent d'imaginer des trucs. Et c'est vrai que tous les Midjourney, Dali, etc. leur permettent d'avoir des nouvelles idées, de créer des nouvelles choses, de tenter des choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc de s'aider de l'IA. J'ai demandé à mes équipes communication et marketing d'utiliser ChatGPT pour bâtir des textes, pour bâtir des newsletters plus rapidement. rapidement. Mmh. En plus, vous pouvez imposer un ton à ChatGPT qui est le ton de votre entreprise. Donc, j'ai demandé à mes équipes de production de voir comment on pouvait rationaliser tout ça en logistique, en stockage, etc. ChatGPT vous dit aujourd'hui comment utiliser Excel. Vous savez pas utiliser un tableur Excel, vous lui demandez quelle formule utiliser pour faire tel calcul, il va vous le donner. Donc chacun peut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle et je suis persuadé que ça va créer de la croissance et finalement de l'emploi. Et puis, l'intelligence artificielle, ça aide à apprendre. Et la formation, c'est majeur aujourd'hui, on ne sait pas comment former les gens. L'intelligence artificielle vous forme. Elle est aujourd'hui, vous lui posez une question, vous voulez apprendre quelque chose, elle vous donne une façon de l'apprendre, elle vous la détaille, vous lui posez une question, elle répond à votre question, vous challengez cette réponse, elle vous répond à nouveau, il y a une contradiction, il y a une formation. Donc, c'est un outil de formation, c'est un outil qui permet d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est pas si facile d'apprendre quand on est un adulte et qu'on n'a pas d'école tous les jours. L'intelligence artificielle, c'est une vraie chance et donc, effectivement, quelques métiers vont disparaître, mais globalement, je pense qu'on va créer de la croissance et créer beaucoup d'emplois grâce à elle.
On a souvent tenu ce discours, il faudra du temps pour convaincre, vraiment. Parce que oui, j'ai des réactions, par exemple, là, ce n'est pas le répétitif, c'est la haute valeur ajoutée de l'IA qui remplace le reste. L'humain aura peu de valeur ajoutée, création massive de valeurs sans humain. Oui,
non, c'est
ce que me dit Stéphane.
Parce que l'IA, par exemple, l'IA ne fera jamais les changements de paradigme. C'est très important, souvent. On change de paradigme. On se rend compte qu'un paradigme n'est plus valable. Et on change de paradigme. Hein, la théorie de la relativité après Newton, et puis dans tous les... L'IA ne fait pas de changement de paradigme. Elle n'est pas capable. On se rend compte à un moment donné qu'un truc n'a pas de sens et on reprend le problème. L'IA toute seule ne le fait pas. Je veux dire, l'IA, c'est comme un outil, c'est comme une super règle à calcul. Ça va nous aider, ça ne va pas nous remplacer. Donc, et ça ne remplace pas la créativité que nous avons. Donc juste, je crois qu'il faut vraiment dédramatiser l'IA. Ça la nourrit absolument. On gagne du temps, on a plus de temps pour être créatif.
Je demande son avis dans un instant à Olivier Babot avant d'évoquer sa chronique du Figaro du 16 février. Isabelle m'écrit, la TVA sociale permet de faire contribuer toutes les personnes qui ont des revenus non déclarés, ils sont nombreux. Bon. Et puis Anne m'écrit, infirmière à l'hôpital, s'il y a une grève, nous sommes réquisitionnés pour un service minimum. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début de l'émission. Ouais. Vous partagez le point de vue développé ici?
Oui, tout à fait. Alors, si on suit un peu l'IA, alors moi je suis persuadé, on est tous persuadés ici, je crois que c'est quand même la révolution majeure de ces années.
Je suis persuadé que c'est une révolution majeure.
Il y a un côté fascinant, il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans qu'il n'y ait pas une nouvelle action extraordinaire. Gemini 1.5 qui fera 1 million de tokens, vous allez pouvoir le nourrir de plusieurs livres pour qu'il nourrisse sa réponse. Le text to motion d'OpenAI, c'est-à-dire tu donnes un texte, il peut te créer une vidéo.
C'est absolument incroyable. J'ai vu ça hier, c'est extraordinaire.
Et alors,
ça peut vous créer des fakes d'enfer aussi.
C'est pour ça qu'il faut réguler. Il faut des réglementations, mais pas trop, intelligemment. Et des adaptations de politique et de réglementation.
Mais si vous passez votre temps à regarder les mauvais aspects de l'IA, vous ne la ferez jamais
avancer. Ah, mais non, mais je suis bien là pour animer le débat. Moi aussi, je sais que c'est une révolution. Et je me suis même amusé. Comment réduire les dépenses publiques en France? J'ai demandé à ChatGPT, je pouvais vous assurer que j'ai 10 réponses qui tiennent la route. Rien de révolutionnaire, mais il y a des choses. Et c'est bien fichu. Bon. Pardon, Olivier. Excuse-moi.
Parmi les trucs complètement dingues, la rumeur d'une fusion entre Midjourney, c'est-à-dire c'est l'équivalent de DALL-E pour créer des images, et X. Qui a été évoqué par Elon Musk. D'ailleurs, Elon Musk aussi, les premiers essais avec un être humain de Neuralink, il a annoncé le fait qu'une personne arrivait déjà très très bien à faire plein de choses sur ordinateur à travers son seul pouvoir de la pensée. Alors ça fait peur. La personne n'a pas été obligée de faire ça, mais enfin, il y a des évolutions technologiques extraordinaires. Effectivement, la première question, c'est celle de la destruction créatrice schumpeterienne, mais je crois qu'on peut compter sur le fait que à nouveau, il va y avoir plein de créations de nouvelles choses. Moi, je suis très ennuyé en ce moment quand mes enfants me disent « Ah tiens, j'ai envie de devenir... » Ils ont entre 10 et 12. Hein. « Ah, j'ai envie de devenir médecin ou avocat. » Alors, bien sûr, je les encourage comme tout bon parent en disant « C'est formidable, fais tout ce que tu veux et c'est des métiers merveilleux tant que ça te rend heureux. » Mais in petto, je me dis « Mais à quoi ça va ressembler un médecin dans 20 ans ? Un avocat dans 20 ans ? » C'est très compliqué à dire. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça existe sous la même forme. Évidemment, je continue à les encourager. Je pense que ça existera, mais probablement avec des compétences différentes. Le vrai problème, c'est celui du rythme. On n'a jamais vu une évolution si rapide rapide. Quand vous avez 25 ans pour vous faire une nouvelle technologie,
c'est ce que je disais,
la nouvelle génération, elle est formée. Là, c'est qu'on te dit, bah, tiens, ça y est, c'est terminé. Dans deux ans, c'est fini. Ton boulot n'existe pas. Il va falloir te former à un nouveau truc. Et ça, c'est évidemment extrêmement compliqué.
C'est la grande destruction.
C'est pour ça qu'il faut un système éducatif très performant. Hyper parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. C'est pour ça que l'éducation, c'est fondamental. C'est pas juste les connaissances qu'on acquiert. À l'école, on apprend à apprendre. Donc, il faut miser à fond. Il faut que nos tests PISA remontent très vite. Comme ce qu'ont fait les Portugais. Monsieur Crato, en Portugal, a fait remonter les tests PISA. Il faut que nous, en France, on puisse faire remonter les tests PISA.
Ils ont mis 5 à 6 ans, c'est faisable.
Oui, voilà. Et c'est faisable. Et parce que c'est à l'école qu'on apprend à apprendre, qu'on apprend à être flexible et s'adapter. Parce que justement, on sait raisonner. Et on sait faire face à un problème nouveau.
Le changement de ministre de l'Éducation nationale ne m'inspire pas forcément beaucoup d'espérance dans ce domaine. Je ne vous le cache pas.
Enthousiasme n'est pas à son comble.
Enfin, Gabriel Attal a dit que c'était.
Oui, il ne lâchait pas le sujet.
Disons qu'il est toujours là.
Comme d'habitude, on va laisser sa chance au produit, n'est-ce pas?
Oui.
On aura largement l'occasion, évidemment, de revenir sur ce type de sujet. Moi, ça me passionne, mais évidemment. Beaucoup, beaucoup de réactions. J'ai pas le temps de les lire. Bon.
On pourra peut-être vous remplacer, Nicolas, par l'intelligence artificielle. Ce serait peut-être une bonne nouvelle pour nous tous.
Très probablement.
Au Japon, ça existe.
Toutes les grandes questions économiques, aujourd'hui, je pose la question à ChatGPT. Et encore, j'utilise le 3.5. Hein, donc, c'est la version gratuite.
C'est bien.
Oui, mais bon, comment rendre la dépense publique plus efficace? Ce matin, je lui ai demandé entre TVA sociale et CSG sociale que choisir.
Alors
bon, c'était difficile avec les réponses que j'avais d'avoir une réponse choisissez ça. Parce qu'il y avait tous les avantages et les inconvénients des deux.
Nicolas, bon. Vous allez apprendre une chose, c'est que ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la façon de poser la question. Oui. Et quand vous saurez bien poser la question, vous aurez la réponse que vous
attendez. Faut-il transférer une partie de la facture de la protection sociale sur les prix ou sur les revenus? Bah voilà. Ouais. Choix politique après. Ouais. De toute façon, moi je suis pas économiste, mais l'économiste il est là pour dire si vous faites ça, vous avez tel effet, si vous faites ça, vous avez tel effet. C'est ça son boulot. Après, le politique, c'est d'arbitrer les choses. On a 4 minutes. Fiasco du bonus réparation. Nos dirigeants ne comprennent pas les mécanismes économiques de base. Titre Olivier Babeau dans le Figaro, page 17, le 16 février.
Cette histoire, c'était quand même une sorte de farce. Hein. Le bonus écologique, alors on comprend hein, évidemment l'idée, c'est qu'on va, plutôt que vous alliez jeter votre machine ou vos appareils électroniques, on va vous encourager, n'est-ce pas, à les faire réparer. Donc on dit, l'État, on va utiliser un peu d'argent de nos impôts pour vous donner un petit coup, une petite pichenette budgétaire en disant, tiens, vous avez une prime, un bonus de 6 euros, etc. Mais bon, ce bonus, il doit être utilisé chez des réparateurs qui sont donc agréés. Pour agréer les réparateurs, on imagine qu'il faut plein de fonctionnaires qui vont agréer. On va créer de la paperasse, et donc la paperasse, c'est des fonctionnaires pour la créer, pour les contrôler, pour aller contrôler les contrôleurs, etc. Bon. Et puis là, sort une étude d'une association qui explique qu'en fait, les prix ont augmenté d'à peu près l'équivalent, 10 à 20% chez les réparateurs. Alors pourquoi? J'explique, il ne fallait pas un super ordinateur de la NASA pour prévoir ça. Il fallait un manuel d'initiation à l'économie en classe de seconde, n'est-ce pas? Qui, dans le chapitre, s'il n'a pas été supprimé sur l'offre et la demande, va t'expliquer que si malheureusement, s'il y a une offre qui est fixe mais que la demande augmente, et bien là, l'équilibre du marché assez naturel, c'est que le prix augmente, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs assez sain, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, à la fin, avec le budget, avec donc l'argent public, on a donc payé pour un avantage qui n'ira absolument pas dans la poche du consommateur. Malheureusement, cet exemple d'ignorance, de fonctionnement, de mécanisme économique de base, il est, malheureusement, on pourrait le multiplier peut-être presque à l'infini. C'est comme si nos dirigeants, en fait, n'avaient aucune idée de ce qu'on appelle l'effet retour. De l'idée que votre décision va avoir un effet sur le marché, que le marché va avoir une réponse, que les acteurs vont répliquer. Ce qui est assez inquiétant, en dehors du fait, du côté un peu gadget, d'une mesure qui est vraiment une micro-mesurette, là où par ailleurs on n'arrive toujours pas à vraiment, par exemple, démarrer de façon volontariste les investissements dans un nouveau parc nucléaire. Voilà, c'est un peu, là encore, ce contraste, il est un peu gênant, vous voyez, entre les micro-mesurettes qu'on va annoncer de façon extrêmement satisfaite et puis la réalité d'une absence de stratégie et de vision à long terme.
Ce que vous décrivez, c'est typiquement ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Oui. Ce qui a l'apparence de la bonne idée, avec une espèce d'intuition évidente, que de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, l'effet de second tour, ou ce qui ne se voit pas.
C'est pour ça qu'il fallait réformer l'économie, enfin, faire même avant la seconde. Moi, j'ai refait les programmes d'économie de tout l'enseignement secondaire.
Il faut faire de l'économie
J'ai changé les programmes d'économie en seconde, première, terminale, et je trouve quand même qu'on devrait démarrer l'économie avant. Je pense qu'il faut. Je pense qu'il y a, il y avait un grand problème d'analphabétisme économique dans la population française. En tout cas, maintenant, c'est obligatoire en seconde.
Philippe, quand on est à Bercy ou à Matignon ou à l'Élysée, on est censé avoir 2-3 neurones peut-être bien placés pour savoir ce genre de choses.
Le problème, c'est que...
C'est le mot de la fin, Sylvain, on est une minute.
Oui, non, le problème, c'est qu'à Bercy, ils ont certainement les neurones pour le faire. En revanche, l'administration, elle, qui a les neurones, hein, elle est chargée d'administrer. Et donc, elle va mettre en place tous les contrôles, les règlements, les accréditations. C'est son boulot. Donc, vous demandez à une administration d'aller contre elle. C'est-à-dire, on lui dit, simplifie, on reparle de simplification. Tous tes fonctionnaires qui travaillent, ils sont en trop, il faut t'en débarrasser, alors qu'elle, elle se nourrit de ça. Donc, quelle que soit l'innovation que vous pouvez avoir au plan économique, à la fin de la journée, c'est l'administration qui décide et qui applique.
Oui, mais enfin, le politique.
Tant qu'on n'aura pas mis la main sur l'administration, c'est toute la difficulté. Sarkozy a essayé quand il était à Bercy, Macron après lui.
Loi Pacte 2.
Le maire aussi. 2. Mais à la fin de la journée, ce sont les administrations centrales qui décident et elles sont surpuissantes.
Oui, mais normalement, un politique qui prend une décision économique doit savoir ce que dit Olivier Babot, c'est que si vous mettez une subvention, la subvention, vous allez la retrouver dans le prix à l'arrivée.
Hélas, comme pour les APL.
Et en plus, c'est vrai que vous avez vu que c'est. Il y a aussi les réparations de vêtements, là.
C'est pareil.
Le zip de 8 cm, c'est pas la même subvention que le zip de 10.
Est-ce que c'est la même TVA? Ils sont fous.
Un jour, il faudra qu'on mette comme ça, on fasse une demi-heure avec en allant. Je me souviens des décrets d'application des restrictions de vente pendant Covid.
Ah mais oui.
Quand même absolument génial. Ouais. On avait interdit
on peut pas acheter de sous-vêtements, mais peut-être des chaussettes, au contraire.
On avait interdit au supermarché de vendre des fleurs parce qu'on avait fermé les fleuristes. Par contre, ils pouvaient vendre des plantes en pot. Bon, allez, c'était bien, merci. Ouais. Merci Philippe Aguillon. 12 mars, hein. Le rapport. 12 mars. Ah oui, ça va être un grand moment. Olivier Babot et Sylvain Aurébi, rendez-vous demain 9h.